Salut, c'est le Podmag numéro 8. Pour ce Podmag dominical exceptionnel, France Podcast vous propose de rediffuser un morceau de l'émission Les Affaires et la Vie de Radio-Canada. Si vous voulez comprendre ce qu'est le podcasting, quels sont les enjeux et son avenir, je vous recommande très fortement d'écouter ce podcast jusqu'à la fin. Vous pourrez réagir à ce que vous entendez en appelant le répondeur du Podmag. Alors depuis la France au 08 70 44 88 13, c'est le prix d'un appel local. De l'étranger au 00 33 870 44 88 13, ou alors tout simplement en appelant France Podcast tout attaché depuis Skype.
C'est notre sixième billet audio. Merci à nouveau de nous prêter votre oreille attentive.
Ah, ben oui, mais il ne s'agit pas d'un morceau de notre émission ou d'une autre émission radio-diffusée, mais bien d'une capsule d'une firme de consultants en stratégie d'entreprise et gestion des technologies d'information qui s'adresse à ses clients. Écoutez bien ça, cette capsule-là, ou ce billet, si vous voulez, est disponible sur Internet. Jusque-là, pas trop surprenant, mais maintenant, il peut être téléchargé sur un lecteur numérique MP3 ou, si vous préférez, comme populaire iPod. C'est une question que c'est une action qu'on appelle la balado diffusion ou plus communément, vous avez peut-être entendu le terme podcasting. Aux États-Unis, ce nouvel outil de technologie-là connaît une popularité, ma foi, fulgurante chez plusieurs entreprises qui l'utilisent notamment pour communiquer avec leurs employés ou, comme on vous le disait, avec leurs clients. Sébastien Perron est là pour nous parler de tout ça, maître de la technologie. Sébastien Perron, bonjour.
Bonjour.
Sébastien, ça peut sembler un peu inusité, là, peut-être, mais il va peut-être falloir aussi se faire la main, hein, parce que cet outil-là commence à se développer ici.
Oui, ici au Québec et au Canada, il y a déjà quelques sites Internet qui offrent la balado-diffusion ou le podcasting. Mais aux États-Unis, Philippe, c'est déjà très populaire. On estime, les premières estimations parlent de 6 millions d'Américains qui ont déjà téléchargé du contenu balado-diffusé. Et pour ceux qui, évidemment, ne savent pas ce que c'est la balado-diffusion...
Oui, parce qu'on est quand même quelques-uns.
Ça peut sembler assez complexe, mais c'est très simple. En fait, c'est le fait de télécharger des fichiers audio de l'Internet à un lecteur MP3 ou un iPod, par exemple, en passant évidemment par un ordinateur, un peu comme certaines personnes le font déjà avec la musique. Mais dans ce cas-ci, Philippe, on parle de télécharger du matériel sonore comme des émissions radio, par exemple. Radio-Canada le fait notamment déjà avec ses bulletins de nouvelles ou ses carnets techno et du contenu audio que l'on peut ensuite écouter en tout temps, en tout lieu. Et c'est ça qui fait la force, Philippe, du podcasting. Et c'est ce qui fait que c'est un phénomène qui croît à un rythme assez impressionnant aux États-Unis et un peu partout dans le monde. J'en ai d'ailleurs discuté avec Julien Van Kenegem qui a lancé, lui, le site France Podcast. Je l'ai joint à Paris un peu plus tôt cette semaine.
Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, j'ai à peu près 1000 auditeurs qui sont abonnés à mon podcast et sur le classement de l'iTunes en France, je suis le premier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, être premier en nombre de podcasts écoutés, c'est avoir 1000 abonnés. Donc c'est pas beaucoup, surtout pour un pays comme la France qui a 60 millions d'auditeurs. Et puis dans le monde, il y a plusieurs centaines de millions de francophones. Donc c'est pas vraiment beaucoup. Par contre, c'est que le début et il semble qu'il y ait un réel intérêt en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, et puis dans le monde entier pour le podcasting. Et on pense que très vite, en France, on pense qu'en septembre, ça va exploser. Parce que là, c'est les vacances d'été en France. Donc pendant 2 mois, le pays est un peu ralenti. Et je pense que les médias sont un peu ralentis. Et en septembre, ils vont tous en parler. Et ils vont tous vouloir rentrer dedans. Et à ce moment-là, le grand public va venir en masse dans le podcasting.
Parce qu'aux États-Unis, c'est un phénomène qui est quand même assez répandu actuellement.
Ah, aux États-Unis, c'est un phénomène qui rentre de plus en plus dans la vie quotidienne des Américains. C'est quelque chose d'hallucinant. Il y a le Sénat de Pennsylvanie qui s'est mis à faire son podcast pour s'adresser à ses citoyens. Donc même les instances politiques se mettent au podcasting là-bas. Vous avez des chanteurs, vous avez des émissions de télé, vous avez tous les grands médias américains, ABC, CNN, qui se sont mis au podcasting. Mais aujourd'hui, ne pas avoir de podcast aux États-Unis en étant un grand média ou un homme politique ou une personne influente, c'est presque ne pas exister. C'est peut-être trouver ça exagéré, mais aux États-Unis, c'est devenu capital d'avoir un podcast, de faire de la baladodiffusion. Ça touche tous les Américains. Alors, je pense que les objectifs en termes de podcasting vont être dépassés largement. On parlait de 60 millions d'utilisateurs dans 5 ans quotidiennement de podcasts aux États-Unis. Je pense que d'ici un an ou deux, on arrivera à ce chiffre-là.
Parce qu'il y a aussi des entreprises qui s'intéressent au phénomène. Il y a des entreprises qui utilisent justement le podcast, la baladodiffusion, pour faire passer certains messages aux employés notamment.
Alors, il y a des entreprises qui se mettent à la baladodiffusion pour parler à leurs employés ou pour leur image de marque ou leur communication. Et très certainement, ils se sont rendus compte que c'était plus facile de toucher des gens avec de la voix, en faisant des effets sonores, qu'avec des textes longs et parfois ennuyeux.
Dites-moi, dans un an ou deux, vous faisiez un petit peu de la projection un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir le même intérêt, la même popularité de ces podcasts, de la baladodiffusion en France et ici, au Canada?
Dans un an ou dans deux ans, je veux dire, ça deviendra quelque chose de normal, le matin, d'ouvrir son ordinateur, de télécharger ses podcasts en s'abonnant, alors avec tel ou tel logiciel, peu importe, et de les mettre dans son baladeur ou dans son autoradio de voiture ou dans son téléphone portable, parce que je pense que là où ça va prendre encore plus d'ampleur, c'est le jour où on pourra mettre directement sur son téléphone mobile, son cellulaire, les podcasts qu'on souhaite. Alors, un podcast d'actualité, un podcast de météo, une émission qu'on aime bien, peu importe. Le podcasting, c'est la radio personnalisée à la carte, quand on veut, où on veut. Et ça, c'est révolutionnaire.
Bon, alors heureusement, comme vous nous le disiez, Sébastien, que Radio-Canada fait un peu de baladodiffusion, parce que sinon on n'existerait pas, selon Julien Van Canegam, qui est du site France Podcast. Il y a plusieurs compagnies, Sébastien, américaines, là, Walt Disney, Nestlé, Purina, et même la NASA, qui ont leur propre podcast. Mais là, de l'autre côté de la frontière, on parle d'un marché de 300 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça au Québec ou même au Canada? Là?
Bien, écoutez, aux États-Unis, on estime que d'ici 5 ans, donc d'ici 2010, il y aura 50 millions de personnes par jour qui utiliseront du contenu qui est balado-diffusé. Et pour savoir justement s'il existe un marché pour ça au Canada, selon plusieurs experts, on dit que oui. Mais j'ai posé la question en fait à des utilisateurs de lecteurs numériques au centre-ville de Montréal. Bon, ce n'est pas une étude qui est très scientifique, Philippe, il va sans dire, mais bon, les réponses à mes questions en disent long, je pense.
Est-ce que vous connaissez la balado-diffusion, ce qu'on appelle communément le podcasting?
Non, pas vraiment. Je sais pas. Ben, j'ai un iPod, là, ça fait moins d'une semaine que je l'ai, donc même nouvelle là-dedans.
Vous l'utilisez de façon régulière?
Oui. Pas mal quand je marche, quand je vais à des endroits, ben, ça m'accompagne tout le temps.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écoutait la radio souvent?
Oui, j'écoute beaucoup la radio. Avant, j'avais un baladeur, donc j'écoutais tout le temps la radio à la place d'écouter la musique, mais là, maintenant, j'ai un truc de musique que je peux écouter. Qu'est-ce qui serait parfait, c'est d'avoir la radio sur le MP3, sur le iPod, mais c'est un accessoire, c'est comme beaucoup plus cher.
Si vous aviez la possibilité justement de télécharger des émissions que vous aimez puis de les écouter quand vous vous baladez, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire?
Oui, ça pourrait m'intéresser. Oui, je regarderais bien quelle émission il y a et tout là, oui.
Ça pourrait m'intéresser, oui. Ça ferait une sorte de radio dans le fond dans le mini iPod. Parce que moi, en général, pour écouter la radio, j'ai recours à mon cellulaire, donc ça fonctionne très bien aussi, mais...
Vous écoutez la radio beaucoup?
Ça m'arrive. En général, s'il n'est pas rechargé, j'écoute la radio sur mon cellulaire, oui.
Et si vous aviez la possibilité d'écouter certaines émissions en particulier sur votre iPod?
Ce serait envisageable, oui, de télécharger et puis de le laisser, oui.
Ça fait longtemps que vous utilisez l'iPod?
Ça fait 5-6 mois.
Et vous l'utilisez de façon quotidienne?
Oui, non, c'est tout le temps. C'est dès que j'ai un moment où je dois marcher, il est là.
Tous les jours, en fait, toutes les heures. Là.
J'écoute la radio?
Ouais, de temps en temps, quand j'ai plus de batterie. Non, c'est une blague. Là. Okay.
Mais si tu pouvais télécharger des émissions de radio, du podcasting, c'est comme ça que ça s'appelle?
Ah ouais, ce serait bien ça, les trucs d'humour là. J'aurais pu télécharger ça, c'est bien ça. Ouais, les trucs d'humour là, les trucs de la Batte Bleue là, puis le petit François Massicotte qui parle là, ça c'est bien. J'aimerais bien ça, télécharger ça là.
Bon, alors on écoute la radio quand on n'a plus de piles, ça va bien. Sébastien, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé d'emboîter le pas dans ce monde-là du podcasting?
Bien, au Québec, il y en a quelques-unes et la première était la firme de consultants montréalaise Amelior Action, qui tente depuis février de joindre ses clients ou des clients potentiels grâce à la balado-diffusion. J'ai justement discuté avec son président, Jean Lalonde, qui produit des capsules d'information qui peuvent être téléchargées à partir du site Internet de la compagnie.
Ça permet de communiquer avec les gens, mais avec... on ne dirait pas un visage compte tenu que c'est, ce n'est qu'audio, mais avec quand même une personnalisation, une voix, une chaleur, une communication qui est plus riche, qui peut provenir de, qui peut être transportée par ce type de média-là, alors que la communication écrite est un peu plus désincarnée. Alors, c'est un des principaux avantages de communiquer de cette façon-là. Par contre, c'est quand même beaucoup plus lourd et demande plus de ressources, plus d'efforts pour produire un contenu. À titre d'exemple, les capsules que je produis vont me prendre peut-être une dizaine d'heures de production. Alors, c'est un investissement important et qui n'est associé à aucun revenu. C'est une activité qu'on fait vraiment dans un but de promotion, de faire connaître ou de connaître de nouveaux sujets aussi, parce que c'est sûr qu'en faisant une recherche sur un sujet, on le connaît mieux, ou de partager la connaissance qu'on a. Donc, c'est un intérêt, mais qui, je constate en ce qui me concerne, pour des besoins du type de ceux que j'ai, ont une rentabilité qui est encore incertaine. Donc, avant que ça se traduise en des contrats qui amènent des dollars, c'est le chemin peut être long. Par contre, c'est un média très intéressant à développer. Et pour des entreprises qui sont dans un domaine où déjà on a des contenus sonores, ou qu'on est déjà, et là je pense aux médias en particulier, mais aussi à d'autres types d'entreprises, d'entreprises qui font des contenus sonores pour les personnes, les handicapés visuels, par exemple. Il y a toute une clientèle, ça leur ouvre toute une nouvelle possibilité, puis des nouveaux horizons en termes de diffusion d'un contenu qu'elles ont peut-être déjà. Je pense que ça s'ajoute à l'arsenal de communication qu'on a en communication écrite, ou en communication audiovisuelle, ou en communication sur Internet. Celui-là offre les avantages de rejoindre les gens de façon très ciblée, très pointue, permet aux gens de s'abonner à des contenus. C'est peut-être la caractéristique principale de la balado-diffusion. C'est pas seulement de l'écouter dans ses écouteurs, mais c'est de pouvoir sélectionner des contenus qui nous intéressent et d'être alimenté dans le futur sur ce qui sera publié dans ce domaine d'intérêt-là ou par cette source-là. Et de cette façon, les entreprises peuvent aussi développer une certaine fidélité de la part d'une clientèle ou d'un auditoire qu'elles veulent rejoindre de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs applications possibles. Est-ce que ça générera des revenus du type abonnement? Bien, il y a des entreprises qui le font aux États-Unis. Est-ce qu'on a atteint la rentabilité? J'en douterais beaucoup. Mais on peut atteindre d'autres objectifs que la pure rentabilité économique et avoir une rentabilité globale qui est quand même intéressante pour l'entreprise.
Jean Lalonde, président de Améliore Action. Justement, Sébastien, parlons-en de la rentabilité, parce que pour une entreprise, pour qu'on y trouve son compte, là, il va falloir que ça rapporte quelque chose.
Oui, Philippe, et ça, c'est loin d'être chose faite, selon les experts. On peut dire que pour l'instant, on en est encore à la phase expérimentale et que l'engouement qu'on connaît, surtout aux États-Unis, là, en tout cas, il y a une sorte de spéculation derrière ça, mais la plupart des entreprises emboîtent le pas parce qu'elles ne veulent pas manquer le bateau si cette nouvelle technologie de l'information là devient surtout la voie de l'avenir. Et j'en ai discuté avec Pierre Bélanger, qui est professeur spécialisé en technologie émergente au département des communications à l'Université d'Ottawa.
Je pense qu'on a là, avec le podcast, une façon extrêmement avantageuse sur le plan économique d'élargir l'offre de contenu et surtout de pérenniser nos contenus à faible coût, puisque je fais une conférence, il y a une présentation d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle marque de réfrigérateur, etc. Vous mettez ça sur des podcasts et les gens qui s'intéressent à ce truc-là, par exemple en botanique, puisqu'on est dans la saison, jardinage, etc., horticulture, vous avez là un potentiel extraordinaire d'archiver et surtout de rendre mobile des contenus qui autrement ne sont offerts qu'à des heures fixes, à 10 heures le samedi matin, ou encore une fois, contraignant les gens à s'asseoir devant un ordinateur pour écouter l'émission qui a été archivée. Sur ce plan-là, je pense que le podcasting et les technologies qu'il utilise viennent d'accroître et de véritablement démultiplier les usages qui sont promis. Ce qu'il s'agit de voir maintenant, une des grandes questions qu'on se pose, c'est mais est-ce que c'est rentable, cette façon de diffuser les contenus? Je vous dirais, tant et aussi longtemps que la musique sera à l'écart du podcast, puisque c'est toute la question des droits d'auteur, évidemment, qui est impliquée là-dessus, j'ai de sérieux doutes quant à la viabilité financière, la rentabilité financière de cette technologie-là. Je pense qu'au cours des prochaines années, on va de toute évidence trouver une façon de rentabiliser le coût. Et lorsque vous avez des compagnies telles que iTunes, notamment, qui avec des forces de frappe extraordinaires, réussissent à distribuer plus d'un million de podcasts en moins de deux jours, je pense qu'ils sont en train de développer encore une fois, comme ils l'ont fait dans le domaine de la musique, un mécanisme, un protocole avec lequel ils vont de toute évidence maintenant tenter de rentabiliser et d'essayer donc de vendre des abonnements à des podcasts très spécialisés. Je pense que c'est l'avènement à surveiller au cours de la prochaine année, sinon au cours des prochains mois. Il faut de toute évidence qu'on trouve un moyen de rentabiliser cette opération-là, puisqu'elle profite aujourd'hui d'un engouement qui ne se dément pas.
Pierre Bélanger, spécialiste des technologies à l'Université d'Ottawa. Sébastien, il n'y a pas des problèmes de droits d'auteur avec ce podcasting?
Oui, comme c'est souvent le cas lorsqu'une nouvelle technologie de l'information voit le jour, Philippe. Et j'ai posé la question à Stéphane Guilker, qui est avocat spécialisé dans le domaine du droit d'auteur et des technologies de l'information chez Fasken Martineau.
Le podcasting implique nécessairement la reproduction d'un contenu à plusieurs niveaux. D'abord, la reproduction sur peut-être une enregistreuse ou en tout cas, à tout le moins, sur un site généralement Internet qui va être disponible ou accessible par le public. Donc, il y a une première reproduction qui a lieu là. Par la suite, pour qu'une personne puisse prendre connaissance du contenu, il devra lui-même le télécharger, donc le reproduire sur son ordinateur personnel, généralement. Et puis, ben, pour faire du vrai podcasting, c'est-à-dire pour l'avoir sur un appareil, un baladeur quelconque, il doit faire une troisième reproduction sur ce baladeur-là. Or, dans la mesure où le contenu est protégé par droit d'auteur, et il faut présumer que généralement le contenu risque de l'être, toute reproduction, nous dit la loi canadienne, américaine et de la plupart des pays du monde, toute reproduction est une violation de droit d'auteur si elle n'est pas permise par le titulaire du droit ou si elle n'est pas autorisée par une exception qui peut être prévue dans la loi.
Quelles sont ces exceptions-là?
Ben, la principale exception à laquelle on peut penser pour ce genre de choses-là, c'est ce qu'on appelle la copie privée. C'est une exception qui existe dans la loi canadienne, qui existe aussi dans les lois de plusieurs pays du monde, et qui consiste à permettre à des individus d'effectuer des reproductions d'œuvres musicales, mais uniquement musicales, à leur propre fin. Et quand je dis à leur propre fin, ça exclut des utilisations telles que, par exemple, faire une copie et pour en faire un disque, par exemple, et le revendre soit dans une cour d'école, un marché aux puces, ou le donner à quelqu'un d'autre, s'en servir pour de la radiodiffusion, s'en servir, par exemple, comme disc jockey. Si je me fais des disques et que je les utilise comme disc jockey, ben c'est pas une copie privée. Donc, la question est donc de savoir si effectivement je rentre dans ce cadre-là. Un autre point qui est important, c'est qu'il y a une décision de la Cour fédérale d'appel en décembre dernier qui est venue se pencher très précisément sur l'application du régime de copie privée au Canada au iPod ou enfin à des équipements de ce type-là, à des baladeurs de ce type-là, et qui a décrété que le régime de copie privée ne s'appliquait pas au iPod. Donc, dans l'état actuel du droit, le fait de faire la copie sur l'iPod ne fait pas l'objet de l'exception et donc constituerait une violation de droit d'auteur.
Est-ce que vous avez l'impression que la loi sur les droits d'auteur, en quelque sorte, peut être un frein pour le développement de cette nouvelle facette de la technologie de l'information?
Ce n'est pas une nouvelle question. À chaque fois qu'il y a eu des développements technologiques, depuis Gutenberg, avec la radio, avec la télévision, c'est toujours la même question qui s'est posée. Est-ce que ces médias-là n'ont pas pu voir le jour? Au contraire, ils ont pris de l'expansion. Je suis persuadé, comme les 200 ans d'histoire de droit d'auteur qu'on connaît l'ont démontré, qu'on va finir par trouver un terrain d'entente raisonnable pour tout le monde.
Le commentaire de Stéphane Guilker, avocat chez Fasken Martineau à Montréal. Merci beaucoup, Sébastien.
Au revoir.
N'hésitez pas à réagir à ce podcast spécial. Rendez-vous pour le prochain PodMag mardi. Bon dimanche ou bon début de semaine à vous. Et surtout, podcastez bien.